Alors, la première chose, donc moi, ce que je compte faire, c'est d'inviter tous les étudiants et étudiantes à non seulement à écouter l'audio comme d'habitude, mais à également, on va dire, préparer une séance de foire aux questions. C'est-à-dire, il y en a déjà à chaque fois, puisque cette année, ça a été plus questionnant finalement que les autres années, ce qui est
Oui.
bien. Plus questionnant que les autres années, donc tant mieux. Surtout que les autres années, donc j'ai l'habitude pour la dernière séance de la couper en deux et de faire 1 heure de conclusion et 1 heure de foire aux questions. Donc peut-être c'est l'occasion. Je peux quand même faire un apport aujourd'hui encore. Alors, il y a différents sujets qui seraient très importants à étudier ou à aborder en tout cas pour c'est des sujets d'illustration finalement de ce que j'ai un peu raconté pendant mon cours. Je vais prendre une question parmi d'autres. Enfin, je vais faire un petit pot pourri de questions. Je vais évoquer par exemple, je réfléchissais tout à l'heure, la question de l'euthanasie.
Oui.
Pourquoi? Parce que elle va permettre d'illustrer différents apports que j'ai pu faire comme ça, de ci, de là. Alors, ce n'est pas un sujet très amusant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un sujet qui est... Je prends celui-ci plutôt que les études de genre, parce qu'il y a, on en parle moins en ce moment, ça reviendra peut-être. Mais l'euthanasie, on en a un peu parlé pendant la crise du Covid,
Oui.
et on en a un peu parlé parce que, il y a eu, un décret. Donc, je le rappelle d'abord l'actualité. Hein. Il y a eu un décret au mois de mars publié par l'État, un décret, je crois que c'est Olivier Véran, ou un décret du Premier ministre ou du ministre de la Santé qui autorisait l'utilisation d'un médicament que j'ai peut-être abordé avec, j'ai peut-être cité ce nom avec vous, qui s'appelle le Rivotril. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et donc, le Rivotril, c'est très intéressant parce que c'est un décret qui élargissait l'utilisation du Rivotril dans les cas pour les patients en gériatrie, les patients en EHPAD et les patients. Alors, c'est gériatrie, EHPAD, enfin. Tiens, on va couper ça, voilà. Gériatrie, EHPAD et comment on pourrait dire ça, tous les patients et soins palliatifs. Alors pourquoi je prends ça? Parce que il y a eu, si vous regardez un peu sur Internet, avant de préparer notre foire aux questions, si vous tapez Rivotril, si vous regardez décret, si vous regardez il y a eu une petite crise dans la crise. Autour de l'usage du Rivotril, et comme vous savez, malheureusement, une des populations, des principales populations cibles du Covid, ou de la Covid, puisqu'il paraît qu'il faut dire la Covid, ce sont les personnes âgées, voire très âgées, et parce qu'elles sont âgées, mais aussi parce qu'elles ont, souvent étant âgées, des comorbidités qui les rendent particulièrement vulnérables au virus. L'usage du Rivotril. Le Rivotril, c'est un médicament qui est très connu, qui est un médicament qu'on utilise au départ dans le traitement de l'épilepsie, qui est un médicament qui est un anticonvulsivant, et que dont on avait généralisé l'usage pour tout ce qui était trouble de l'anxiété. Il y a 20 ans, mettons, je dis pas que tout le monde prenait du Rivotril, mais beaucoup de gens, le Rivotril était prescrit largo manu, et il était beaucoup trop prescrit avec des effets de dépendance, parce que c'est une benzodiazépine et qu'il y a un fort effet de dépendance. Donc l'État avait, jusqu'au décret récent, l'État avait réservé la prescription du Rivotril aux neurologues. En tout cas, en première intention. Puis après, on pouvait le renouveler. Bon. Et là, tout à coup, pendant la crise du Covid, qu'est-ce qu'on voit arriver? Un décret qui, de nouveau, banalise l'usage du Rivotril, qui était devenu un médicament d'exception. Ce n'est pas passé inaperçu par beaucoup de gens, y compris des associations, y compris des associations catholiques, plutôt classiques, et on a attention, le Rivotril va servir à euthanasier, à pratiquer l'euthanasie sur les personnes très, très vulnérables, etc. La vérité, parmi les infox, il y a eu tellement d'infox, la vérité, c'est qu'en fait, le Rivotril est un médicament qui a été amené à... On en a généralisé l'usage parce que il remplaçait, il suppléait un médicament qui faisait défaut pendant la crise, qui s'appelle l'Hypnovel. Et l'Hypnovel est un médicament qu'on donne effectivement, je dirais, en dernière instance, pour éviter que les patients ne souffrent et puis n'angoissent dans des situations ultimes. Bon, alors, l'usage du Rivotril a fait craindre, pendant cette crise du Covid, ou de la Covid, un mésusage avec un risque de pratique de l'euthanasie sur des patients en EHPAD, des patients en gériatrie, bon, patients en fin de vie. Bon. Alors c'est très intéressant parce que ça me permet premièrement de vous parler de l'euthanasie, deuxièmement de vous parler de quelque chose de très important en théologie morale qu'on appelle le double effet, la loi du double effet. Double effet, en anglais c'est double bind, et voilà, et en français, c'est double effet. Alors, c'est quoi un double effet? Eh bien, un double effet, c'est... Alors, ça s'applique à beaucoup de réalités de la vie, ça peut aussi s'appliquer aux médicaments. Un double effet, c'est, par exemple, pour le médicament, c'est ce que vous avez dès lors que vous prenez un médicament et que vous regardez la liste des effets. Donc, l'effet, c'est que ça vous guérit. Mais le double effet, c'est que ça peut aussi vous tuer, un médicament. Hein. C'est le problème. C'est-à-dire, d'où le sigle des médecins, hein, c'est le caducée, hein, le serpent, qu'on trouve d'ailleurs dans la Bible, dans le livre du Deutéronome, hein, c'est-à-dire que c'est la question du poison. Alors, le double effet, dès que vous prenez un médicament, il y a un effet positif, un bon effet. La raison pour laquelle on vous le prescrit, c'est qu'il y a un bon effet. Donc, vous attendez de ce médicament une guérison, mais il y a des effets dits indésirables, donc un double effet, c'est-à-dire tous les problèmes secondaires attachés à tout médicament, y compris le Doliprane ou autre chose. Hein. Alors, en l'occurrence, pour le Rivotril, le double effet, c'est un effet anxiolytique trop fort, si vous voyez ce que je veux dire, hein, évidemment. C'est-à-dire, c'est du Rivotril injectable. Bon. Quand il y a un double effet, c'est-à-dire un effet bon et en même temps un effet négatif, quand il y a un double effet, dans la théologie morale la plus stricte, hein, j'allais dire la plus catholique, on ne peut pas, normalement on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est-à-dire s'il y a un effet bon mais qu'en même temps il y a un effet négatif, on n'est pas autorisé à comment dirais-je, on ne peut pas arguer de l'effet positif attendu pour justifier l'effet négatif. Par exemple, au titre du moindre mal, hein, on ne peut pas le faire. Sauf qu'on le fait tout le temps dans la vie quotidienne, sinon on ne prendrait plus aucun médicament, on ne prendrait plus aucun risque. Ça s'applique à beaucoup de réalités. Donc ça, c'est la loi du double effet. s'applique absolument partout, hein. Si je prends l'éthique économique, le capitalisme a l'effet bénéfique, l'effet positif de faire tourner l'économie, d'accord, et de permettre à chacun d'avoir des échanges et de gagner sa vie. L'effet négatif, c'est que ça fait beaucoup de pauvres, c'est qu'il y a des premiers de cordée, et puis c'est qu'il y a des derniers de cordée qui n'ont pas une, qui sont de plus en plus pauvres. L'effet pervers du capitalisme, le double effet, c'est que les riches sont toujours plus riches, comme disait Louis de Funès, et les pauvres toujours plus pauvres. Et pourtant, on vit dans le système capitaliste. Et l'Église accepte le système capitaliste, même si le pape François le critique énormément. Donc, c'est ça le double effet. Hein. On ne peut pas s'en passer, et en même temps, la théologie morale la plus rigoureuse, celle qu'il faudrait dire la plus tussuriste, n'est pas très à l'aise avec ces doubles effets permanents qui, au nom d'un bien attendu, permet aussi des effets catastrophiques. Alors, si j'en reviens à mon rivotril et à l'euthanasie, le double effet du rivotril, c'est de précipiter la mort de quelqu'un. Donc, vous avez c'est-à-dire des patients qu'on ne prend pas en soins Covid et dont les jours sont très menacés. Bon, il y a un article, si ça vous intéresse, il y a un article de Marianne là-dessus, sur les l'hebdomadaire, Marianne, je crois, sur les patients âgés qui n'ont pas tous, semble-t-il, été toujours bien traités pendant cette crise du Covid. Bon. Alors, en ce qui concerne l'euthanasie, donc l'effet de l'actualité, ça a été ça. Ça a été une crainte d'une extension indue de l'usage du rivotril dans des contextes. Bon. Il y a eu aussi beaucoup d'infox autour de ce médicament, parce que c'est un médicament dont on connaît très bien l'usage. Et comme on en connaît très bien l'usage, mis entre des mains expertes, c'est-à-dire par des médecins, et en particulier les médecins de soins palliatifs, il n'y a strictement aucun danger. Mais il y a eu un vent de panique autour de l'usage possible de ce médicament, à mon avis, et d'ailleurs trop tôt pour savoir dans quel contexte véritablement il a été appliqué, et puis d'ailleurs si les soignants en parleront. Bon. Alors c'est comme ça que la question de l'euthanasie, c'est notamment comme ça que la question de l'euthanasie est arrivée pendant la crise Covid-19. Bon. Alors, c'est comme ça que la crise, que l'euthanasie est. Juste avant, on avait eu l'affaire Lambert, enfin les affaires d'ailleurs, qui ont attiré notre attention. Encore une fois, les affaires qui ont duré des années avec des affaires à ressort, enfin qui. Bon. Alors, l'euthanasie. Le principe, l'euthanasie, c'est une question intéressante parce que le principe, c'est que, je vous le rappelle, en toute bonne morale naturelle, ou si on respecte la loi naturelle, hein, Dieu seul est maître de la vie et de la mort, et donc on ne peut pas intervenir, personne ne peut intervenir sur le cours naturel de la vie. Ça vaut pour le début de vie, ça vaut pour la fin de vie. Alors, moyennant quoi, on pourrait dire l'Église est contre l'euthanasie. C'est vrai. L'Église est contre, puisque, si vous vous rappelez mes cours précédents, l'objet de l'acte est un objet mauvais, donc il n'y a aucune raison de poser un acte d'euthanasie. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Alors, d'abord, en plus, il faut savoir, moi je parle pour l'Église catholique, c'est un peu plus ouvert dans certaines églises protestantes. Hein. Par exemple, pas seulement en France, hein, mais à l'étranger, bon. Alors, on distingue sur l'euthanasie il y a deux distinctions qu'il faut pouvoir articuler pour essayer de comprendre un peu mieux la position de l'Église. voir la position d'ailleurs de nos sociétés, hein, qui admettent ou pas l'euthanasie. C'est très varié. Vers l'Europe du Nord, déjà vers la Belgique d'ailleurs, hein, il y a voilà, une autorisation plus large, y compris chez les enfants. Ça, c'est une loi qui a été modifiée en Belgique il y a un an, quelque chose comme ça, qui a beaucoup, beaucoup inquiété les éthiciens belges. Alors, quand on dit que l'euthanasie est interdite en France ou interdite par l'Église catholique, de quoi parle-t-on? On parle de la distinction entre l'euthanasie directe et l'euthanasie indirecte, ce qui est une première définition. L'euthanasie directe, c'est l'euthanasie qui provoque la mort, donc l'étale par injection. Si vous vous souvenez du professeur Schwarzenberg, qui dans les années, début des années 80 avait défrayé la chronique, parce qu'il proposait aux patients un cocktail lytique, létal, qui provoquait directement sur des patients cancéreux, en phase ultime, la mort. Donc ce type d'euthanasie, c'est-à-dire l'euthanasie directe, est interdit. Est réprouvé par l'Église parce que il s'agit de précipiter la mort, est interdit également par l'État français, par la loi française, y compris la loi Claeys-Leonetti, y compris dans la révision d'ailleurs des lois Claeys-Leonetti, parce que le médecin n'a pas pour but de transmettre la mort, mais de permettre la guérison du patient. Bon. L'euthanasie indirecte, c'est toutes les formes d'euthanasie, enfin, l'euthanasie directe, indirecte n'est même pas, on ne sait même pas si elle mérite encore le titre d'euthanasie, si vous voulez. Hein, l'euthanasie indirecte, c'est un soin palliatif, c'est une forme d'euthanasie indirecte, on sait très bien que indirectement, la mort, au bout du compte, sera inévitablement au rendez-vous, mais puisque l'on refuse l'acharnement thérapeutique, qui a un autre nom maintenant qu'on appelle l'obstination déraisonnable, hein, enfin c'est la même chose, puisqu'on refuse l'acharnement thérapeutique, on met en place un système de soins palliatifs, et ce système de soins palliatifs, on sait très bien, quand on arrive en soins palliatifs, qu'il s'agit d'accompagner la personne vers ses derniers jours et ses dernières heures en utilisant de tous les moyens, y compris thérapeutiques, pour qu'elle ne souffre pas et qu'elle entre aussi paisiblement que possible dans la mort. Là, vous voyez, il y a un double effet. Le double effet, c'est que, on utilise des thérapeutiques qui accompagnent la personne, elle souffre moins, elle a moins d'angoisse, elle est entourée, etc. Mais le double effet de ces thérapeutiques, on sait très bien que c'est des thérapeutiques qui agissent sur le cœur, le cerveau, etc. Et qui, puisqu'il n'y a plus de pronostic vital possible positif, vont entraîner à plus ou moins brève échéance, vont accompagner, la disparition, le décès du patient. Ouais, c'est un double effet là, que l'Église autorise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème pour l'Église catholique avec ces formes indirectes, faut-il encore les appeler euthanasie? Oui, non, enfin, il y a différentes modalités, etc. C'est tout le débat d'ailleurs autour du Vincent Lambert. Hein. Est-ce qu'on pouvait parler d'euthanasie? Est-ce qu'elle est directe? Est-ce qu'elle est indirecte? Si elle est directe, elle est réprouvée aussi bien par l'Église catholique que par l'État, encore l'État français en France, hein, parce que des associations comme Mourir dans la dignité se battent pour que l'euthanasie directe soit possible. Et l'euthanasie indirecte qui ne pose problème ni à l'État ni à l'Église, en principe. En principe, parce que selon les cas, c'est pas aussi simple. Hein. Mais bon. Alors, il faut croiser cette distinction entre euthanasie directe et euthanasie indirecte avec une autre distinction, c'est l'euthanasie volontaire et l'euthanasie involontaire. Donc, l'euthanasie, il ne faut pas se tromper sur les termes. Quand on dit volontaire ou involontaire, il faut bien comprendre ce qu'on veut dire. L'euthanasie volontaire, c'est l'euthanasie qui est possible parce que le patient a exprimé sa volonté. C'est pour ça qu'on dit que c'est une euthanasie volontaire, c'est qu'on respecte la volonté du patient. D'où, en France, l'expression de la volonté, les directives anticipées, qu'il faut d'ailleurs connaître toujours, et remplir. En fait, il y a très peu de Français qui le font. Je crois que c'est dans l'ordre de 10%, mais en fait, c'est extrêmement important parce que vous exprimez votre volonté sur la manière dont vous souhaitez être accompagné si vous arrive un problème très grave. Ça, c'est l'euthanasie volontaire. L'euthanasie involontaire, on ne connaît pas la volonté du patient. On ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est quand même, la plupart des cas, c'est ça, on ne sait pas ce qu'il veut. Et quand on ne sait pas ce qu'il veut, ça complique la prise de décision, qui est normalement une prise de décision collégiale d'une équipe. Dans le cas de Vincent Lambert, il y avait 5 ou 6 équipes soignantes qui s'étaient exprimées. Et quand on dit collégial, c'est collège de l'équipe soignante et normalement avec l'accord de la famille. Dans le cas Lambert, vous voyez, ils se sont déchirés, donc c'était très compliqué. Dans le cas Lambert, en fait, il n'y avait plus de bonnes décisions possibles. On était arrivé à un tel point de non-retour que plus aucune décision, éthiquement valable n'était possible. Bon, l'euthanasie involontaire, donc c'est énormément de cas. Oui, et j'ajoute que normalement c'est l'équipe des soins en accord avec la famille, mais souvent la famille n'est pas là. Hein. Et quand elle n'est pas là, ou quand elle est là, elle n'est pas forcément d'accord non plus. Hein. C'est le cas pour la famille Lambert. Hein. Donc, euthanasie volontaire, euthanasie involontaire, donc là, il faut croiser les deux logiques. Hein. Le droit maintenant, la loi parle d'euthanasie volontaire et involontaire. Donc, volontaire, directive du patient, involontaire, on ne sait pas ce qu'il veut. Et il ne faut pas abandonner la précédente définition, qui est toujours valable. Elle est un peu plus classique, un peu plus sommaire, si vous voulez, mais elle permet de cadrer les choses, c'est-à-dire... Est-ce qu'on injecte quelque chose qui va provoquer la mort ou bien est-ce qu'on se contente, si j'ose dire, parce que c'est déjà une prouesse, on sait très bien que la mort sera au rendez-vous, mais on va tout faire pour qu'elle se passe justement dans la meilleure dignité possible. Et là, on retrouve la question de la dignité dans les soins palliatifs, en particulier les soins palliatifs catholiques, on va dire, hein, catholique, c'est-à-dire faut penser aux institutions qu'on peut connaître. Ce mot la dignité n'a rien à voir avec mourir dans la dignité, qui est l'association laïque, même très très laïque, qui promeut cette technique, cette décision. J'ai donné ce dossier-là parce qu'il me semble qu'il a une question d'actualité qui a surgi autour de la loi sur le Rivotril. Normalement, cette loi devrait prendre fin avec l'état d'urgence sanitaire. Mais vous pourrez faire le test, c'est très intéressant. Moi, je vais le faire de mon côté. On va voir si le Rivotril est rapatrié dans les ordonnances d'exception, auquel cas ce serait très rassurant. Où on va voir si le Rivotril est de nouveau utilisé en médecine de ville ou en médecine gériatrique ou en médecine, voilà, ce qui sera moins rassurant parce que il y a une pénurie de médicaments. Vous avez entendu parler, notamment pour les pénuries de curares, enfin de tous les médicaments qui permettent de pratiquer. Et il y a une pénurie d'hypnovel. Donc on va voir ce qui se passe si ce médicament redevient ce qu'il devrait être, un médicament d'exception, ou bien si la fin de l'urgence sanitaire ne s'accompagne pas d'une prudence vis-à-vis de ce médicament. Bon, et c'est bien parce que, vous voyez, la question de l'euthanasie, elle croise la question de la morale de l'objet, la morale naturelle, la loi naturelle, et puis les questions d'éthique, de système éthique contemporain, où il s'agit de trouver, de prendre une décision en conscience, hein, et prendre une décision en conscience dans l'euthanasie, ça veut dire exprimer sa volonté dans les directives anticipées quand sa conscience est encore rationnelle, libre, douée de volonté, justement, et capable d'être exprimée. Et voyez, c'est intéressant aussi cette question parce qu'elle croise les convictions catholiques et le monde séculier, voire hyper séculier, qui est le nôtre. On pourrait faire le même genre d'exercice très intéressant sur le début de vie, par exemple, avec la question de l'avortement, avec la question de, en bioéthique, la question du clonage, où je l'ai évoqué lors d'une, je crois, d'une de questions précédentes, les médicaments, on en parle beaucoup en ce moment, de l'hydroxychloroquine à d'autres types de médicaments, on pourrait aussi travailler cette question-là, hein, c'est tout à fait intéressant. Alors, je ferai une deuxième vignette, on va dire, d'actualité, puisque c'est Jean-Yves qui me l'a suggéré, sur l'écologie. En effet, alors c'est très important, c'est aussi une question d'actualité. C'est aussi une question d'actualité, l'écologie, voire d'avenir, puisque la crise du Covid nous a invités à comment dire ça, à penser le monde d'après. Et penser le monde d'après, c'est enfin donner des priorités écologiques, hein, et ne pas se contenter, comme dirait Monsieur Hulot, dont vous avez vu les initiatives récentes, hein, ne pas se contenter de la planète brûle, etc., et de ne rien faire. Donc la crise du Covid pourrait être enfin l'occasion d'un vrai changement écologique qui pourrait affecter, par exemple, le nouvel Emmanuel Macron, hein, qui sortirait de la crise du Covid avec deux priorités, un, l'hôpital, deux, l'écologie. Alors, ça c'est pour c'est comme ça que j'attrape la question par l'actualité, parce que c'est comme ça qu'elle s'est présentée, et vous pouvez d'ailleurs aller voir aussi, hein, par exemple, là, il y a eu une signature des grands, s'ils sont encore grands, mais des femmes et des hommes de gauche qui nous restent en France et qui ont signé un accord, évidemment sans la France insoumise, ce serait trop simple, mais un accord sur les priorités écologiques à donner à la France après Covid. Bon, l'actualité de l'Église sur l'écologie, c'est bien sûr c'est le pape François. Mais c'est comme pour le Concile, hein, c'est pas le point zéro, hein, de l'écologie, mais il est incontestable que le pape François est probablement le pape le plus vert. Certains ont dit qu'il est entre le vert et le rouge, le pape François, mais c'est probablement le pape le plus vert qu'on ait eu depuis le Concile. Mais l'écologie avec le pape, le souci écologique de l'Église ne naît pas avec le pape François. Hein. C'est-à-dire que le souci écologique de l'Église, on le sent déjà dans les textes du Concile Vatican II. Alors, on parle pas tellement dans les années 60 d'ailleurs du mot l'écologie. D'ailleurs, si vous vous souvenez, hein, le mot écologie apparaît lentement et il est précédé par d'autres concepts qui veulent dire la même chose, mais c'est jamais, enfin, indifférent. Hein. Regardez par exemple le nom des ministères en France. On a longtemps parlé du ministère de l'environnement. Et puis, c'est basculé, je crois, je ne sais plus si c'est Madame Royal ou déjà avant Ségolène Royal, le ministère est devenu d'un seul coup le ministère de l'écologie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand le mot apparaît ? Ben, c'est pareil pour l'Église. On ne parlait pas forcément des réalités écologiques avec le mot écologie. C'est-à-dire qu'au moment du Concile, dans les années 60, et avec Paul VI, on parlait beaucoup de la création. Évidemment, c'est comme ça que des chrétiens, pas seulement des chrétiens d'ailleurs, mais les grandes religions monothéistes et même bien au-delà, les grandes traditions religieuses du monde, ont, comment dirais-je, ont la conviction que d'un Dieu créateur, éventuellement, et c'est pas de la même manière, d'un Dieu sauveur. Un Dieu créateur, ça veut dire que la création est bonne. Quand je dis les grandes traditions religieuses du monde, ça veut dire que nous partageons avec les grandes traditions religieuses du monde, en particulier les traditions monothéistes, l'idée qu'il faut protéger la création, qu'il faut sauvegarder la création. Donc, d'ailleurs, l'expression dans les années 60-70, c'était « sauver » ou « sauvegarder la création ». Donc, on sentait bien une thématique très religieuse, avec le mot de la Genèse, hein, « il les créa hommes et femmes, il vit que cela était bon ». Donc, c'est beaucoup sous l'idée de sauvegarde de la création que s'est présenté le souci écologique de l'Église à partir des années 60-70. Et c'est Paul VI qui a boosté, on pourrait dire, hein, le souci écologique de l'Église. Paul VI, Jean-Paul II, incontestablement. Hein, et on peut dire d'ailleurs, sur l'écologie, incontestablement, on peut dire que l'Église a été pionnière. C'est-à-dire que très, très clairement, on dit souvent que l'Église a 200 ans de retard, enfin c'est le cardinal Martini qui disait que l'Église avait 200 ans de retard sur son siècle, mais sur l'écologie, elle a eu, si peut-être pas 200 ans d'avance, mais elle a eu plusieurs générations d'avance. C'est-à-dire que est incontestable que l'écologie a été mise en lumière par l'Église catholique et par les Églises chrétiennes en général, bien avant, ou un peu avant, la prise de conscience concrète des nations. Enfin, pour être un petit peu varié, parce que les grandes organisations mondiales, européennes et mondiales, l'avaient aussi, mais les gouvernements, non. L'Église a été franchement pilote là-dessus, et l'est toujours, et François est évidemment à booster encore de façon beaucoup plus décisive la question écologique, et la booster en... Alors, on trouve dans son magistère le mot écologie, hein, on le trouve déjà sous Jean-Paul II, donc c'est pas une création de François, ça, je dirais Jean-Paul II et François ont accompagné le mouvement général, hein, avec le mot écologie. Mais on trouve chez François une création importante, c'est ce qu'il appelle l'écologie intégrale. Donc le thème d'écologie intégrale est au cœur de l'encyclique Laudato Si, qui est une encyclique décisive du pontificat de François, pionnière, etc. Et qui est d'ailleurs une nouveauté très importante dans les encycliques, parce qu'en principe, les papes écrivent des encycliques pour commenter un point du magistère. Là, c'est pas pour, il a écrit une encyclique, pas pour commenter un point du magistère, pour parler d'écologie. Alors, sauf à penser que l'écologie fasse partie du magistère, ce qu'on peut penser, pourquoi pas, hein, en tout cas, c'était une manière, ça lui a été d'ailleurs parfois reproché, c'est-à-dire... l'écologie, on ne savait pas que ça faisait partie du magistère. Eh bien, il a écrit une encyclique sur l'écologie. Et il a introduit, vu le défi que ça représente pour la planète, il a donc introduit le concept d'écologie intégrale, qui est un concept très intéressant parce qu'il est très en prise avec les réalités contemporaines, à savoir l'écologie, le vrai souci écologique, ce n'est pas seulement le souci qui concerne excusez-moi pour la caricature, la défense des petits oiseaux, des animaux de compagnie, des bœufs et des vaches bien de chez nous, et de Normandie, etc. L'écologie intégrale, c'est comment l'homme et la femme se comporte personnellement et communautairement dans le monde, dans la création qui est confiée par Dieu. Et quand le pape dit écologie intégrale, ça veut dire que ça intègre toutes les dimensions de la personne humaine et des collectivités, c'est-à-dire le fonctionnement économique, les réalités sociales, la vie spirituelle, la manière de croire en Dieu, le rapport entre soi et les autres. Tout ça fait partie d'un souci écologique global qu'il appelle le souci, enfin qu'il appelle l'écologie intégrale. Ça également, la conception de la famille. Voilà. Autrement dit, vous voyez, c'est un changement de lunettes considérable. C'est pas l'écologie comme il y a un ministère de l'écologie dans le gouvernement. C'est l'écologie qui devient le moteur intégratif de l'ensemble des décisions à prendre pour soi et pour les sociétés, pour l'Église bien sûr. Donc ça a été une, on va dire probablement, ça restera une des révolutions du pape François pendant son pontificat. Alors, il y a, il faut le dire aussi, hein, dans l'écologie intégrale du pape François, et ça c'est une vraie question pour l'avenir, c'est la question qui se pose là maintenant, à chacun d'entre nous, à chaque gouvernant en particulier, il y a un plaidoyer pour la décroissance. Hein ? C'est-à-dire que le modèle économique et les modèles de société que le pape souhaite pour l'avenir sont des modèles fondés sur la décroissance. Donc vous voyez, c'est même l'écologie intégrale, elle intègre même des choix politiques pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écologie intégrale qui pourrait accepter des modèles fondés sur une croissance continue, hein, de la planète et des sociétés. Il faut acquiescer à une forme de décroissance dans les choix de vie personnels et communautaires que nous allons faire. Ce qui est une, pour certains économistes, hein, ce qui a été beaucoup reproché à l'encyclique, c'est que, on a dit, le pape a travaillé avec uniquement les économistes qui favorisent la décroissance, et tous les autres, les libéraux, etc., ont été exclus du champ du possible. Bon, c'est vrai que le pape a travaillé avec évidemment des économistes qui envisagent et qui demandent la décroissance, qui passe notamment par le respect non seulement de l'écologie, mais des rythmes de vie de chacun, des rythmes de vie. C'est vraiment la question d'actualité au moment où on se dit on va peut-être sortir du Covid, on sortira du Covid en y ayant laissé des plumes, on va sortir du Covid ou de la Covid à moyen terme, on verra bien, mais le coup d'après ne peut être qu'un coup d'écologie intégrale. Alors, c'est très important parce que ça conditionne même des choix politiques, des choix. Voilà. Et puis, ça conditionne aussi, ça engage la crédibilité du magistère. Parce qu'on reproche souvent au magistère sur les questions économiques et sociales d'être purement théorique. C'est-à-dire, quand on en parle, on est tous d'accord, mais concrètement, quand il s'agit de faire tourner l'économie, ça ne marche pas. Hein ? Regardez les débats actuels, on va relancer l'économie, il n'y a pas de choix après l'austérité que vers plus d'austérité, pas d'autre choix, sinon ce sera pire, et la décroissance, oh là là, la décroissance mais est annoncée comme un drame par certains économistes. Bon. Là, il y a un choix assez clair de modèle de décroissance. Alors, on le voit décliner ce modèle-là à la fois chez de jeunes économistes ou de jeunes philosophes, etc., ce qu'on appelle la sobriété heureuse. Hein. Donc, il faut acquérir une sobriété heureuse, et non plus un modèle de croissance continue, qui est un modèle où on privilégiait, comme aurait dit Jean-Paul II, le primat de l'avoir sur l'être. Alors, le primat de l'avoir sur l'être, c'est probablement quelque chose qui nous a menés là où nous en sommes. Hein, je ne sais pas si le virus, le coronavirus 19 est une maladie de la mondialisation, mais il est très clair que dans les... Parce que c'est d'abord une maladie hein, de la mondialisation, enfin, c'est d'abord une maladie, mais la mondialisation, on a fait quelque chose de... Enfin, j'allais dire, ce virus a impacté tous les modèles de mondialisation. Enfin, impacté, mais oui, impacté, disons, pour aller vite, les modèles de mondialisation qui sont les nôtres. Bon. Voilà pour l'écologie intégrale. Hein. Donc, bien noter que... bien noter que ça n'est pas une création ex nihilo du pape François, mais qu'il est indiscutable que ce souci d'écologie a pris un tournant majeur, nouveau, avec ce pontificat. Et je pense que c'est maintenant irréversible. En plus, il a tendance à suivre, si vous voulez, l'évolution, d'ailleurs que le Covid, malheureusement, a l'air de démontrer, à savoir on ne peut pas penser le monde d'avant comme finissait, on ne peut pas penser le monde d'après comme finissait le monde d'avant, avec des impasses qu'on voyait, mais qui étaient dues aux politiques de l'autruche qui sont souvent les nôtres. Hein ? Alors, bon, voilà, deux questions que j'ai abordées de manière un peu générale, mais pas tant que ça. Il y a deux questions que j'ai essayé d'ancrer sur ce qui est apparu pendant cette crise sanitaire inédite. Deux questions très différentes. Ce qui sera possible de faire, moi, ce que je souhaiterais qu'on fasse mardi à la dernière de nos rencontres, hein, c'est de me poser des questions, d'ailleurs de nous poser des questions sur ces deux dossiers. Mais on peut également aborder toutes sortes de questions qui seraient intéressantes sur le parcours tel qu'on l'a fait, dans ces aspects historiques, mais sur des questions d'actualité que vous voudriez aborder aussi avec moi et qui vous sembleraient très importantes à aborder en ce moment. J'avais l'habitude, au début de mon cours au CIF, de parler chaque année, je parlais un peu des études de genre, parce que j'ai commencé mon cours au CIF, je crois, en 2013, si ma mémoire est bonne. Et en 2013, c'était, j'allais dire, la sortie des manuels de SVT dans les classes, et donc qui avait beaucoup inquiété les profs et les parents, et les chefs d'établissement. Et donc, j'avais introduit ça dans mon cours. Et puis, on m'a fait remarquer depuis un ou deux ans qu'on en parlait moins et qu'il fallait que peut-être que je parle d'autre chose. Donc, voilà, mais on pourrait parler de ça aussi. Enfin, c'est très intéressant parce qu'elles sont aussi au croisement de plein de problématiques, les études de genre. Bon, et puis, il peut y avoir bien d'autres questions liées à l'actualité ou pas à l'actualité. Hein. On n'est pas obligé de coller à l'actualité. Mais c'est la séance de foire aux questions permet peut-être justement de mettre en relief avec tous les outils historiques, enfin quelques outils historiques que je vous ai transmis, d'interroger l'actualité sur des questions que j'aurais laissées dans l'ombre et que vous voudriez, ne serait-ce que parce que ça vous préoccupe, aborder ensemble, vous voudriez qu'on les aborde ensemble. Voilà.
Ok. Bon. Ça va ? Bien. Oui. Quand tu as parlé de la décroissance, ouais. Moi, je pensais au premier moment où on a entendu parler de ça, enfin, dont je me souviens, c'était à la fin des années 60, le Club de Rome.
Oui, oui.
Qui à ce moment-là a été reçu avec beaucoup de
circonspection.
Circonspection, ces gens-là sont des rêveurs, etc.
Oui.
Et je me souviens qu'en fait, ça avait été le produit de premières études de simulation faites avec des ordinateurs qui devenaient assez puissants pour faire des simulations avec tout un tas de paramètres et voir ce que ça pouvait donner à moyen terme. Quoi.
Oui. Oui, c'est... Mais moi, j'ai un souvenir assez précis d'avoir présenté l'encyclique Laudato Si devant des... comment ça s'appelle déjà ? Dans l'enseignement catholique, les administratifs qui ont en charge les budgets de l'enseignement catholique par diocèse. Ça porte un nom, mais je ne l'ai pas en tête pour le moment, il m'échappe. Et je leur ai présenté l'encyclique, je leur ai parlé de la décroissance. Ils ont tiré une tête comme ça, parce qu'ils se disaient, mais la décroissance, on est en train, nous, de voter les budgets pour améliorer nos établissements scolaires en termes de, par exemple, justement de protection écologique, c'est-à-dire aménager, voilà, mettre des, enfin, bon. Or, c'est le débat autour de la décroissance, c'est-à-dire que c'est un luxe de pouvoir décroître d'une certaine manière. Et donc, il y a des paradoxes de la décroissance, c'est que la décroissance peut relever dans un certain nombre de cas du fantasme. Donc, alors, le Club de Rome, c'est, dans les années 60, repoussait avec élégance plus ou moins ce type de notion. Il semblerait que ce soit toujours le cas, hein, surtout avec le président actuel. C'est-à-dire, mais on amorce toujours une transition, la fameuse transition écologique qui a peine à émerger. On l'amorce sur des, c'est plus que des amorces quand même, hein, mais sur quelques grands chantiers avec des dates assez lointaines. Mais ça vient comme des options supplémentaires, on va dire, sur un modèle de croissance qui est au fond intangible. Et donc, ce ne sont jamais des réformes en profondeur, ce ne sont que des options supplémentaires qu'on se donne pour pallier les inconvénients de la croissance. Donc, parce que la décroissance elle-même ne serait pas viable. Alors, c'est évidemment pas tout ce que dit, c'est pas du tout ce que dit l'encyclique, c'est pas du tout ce que disent les économistes comme Thomas Piketty ou d'autres. Et donc, c'est l'objet d'une controverse très forte entre des gens comme Laurent Alexandre, hein, le chirurgien et ultra-libéral Laurent Alexandre, qui a une peur panique de la décroissance. Hein. Alors, d'un côté Laurent Alexandre et de l'autre des modèles d'économie comme Piketty ou d'autres qui disent que même à l'extrême opposé, les collapsologues. Voilà. Un extrême opposé. Alors évidemment, et entre les deux, l'icône Greta Thunberg. Donc, voilà, comme ça, on est dans l'actualité. Mais pour le coup, je trouve que le magistère écologique de François se situe exactement là où il faut, hein, c'est-à-dire au cœur du débat.
Oui. Oui, d'ailleurs, Christine qui est à côté l'a dit, d'ailleurs, il n'a plus à nos jeunes.
Oui, mais bien sûr, oui. Oui.
Mais il n'y a pas tant de choses de ça que ça de l'Église qui plaise à nos jeunes actuellement.
Non. Et ça, je conclurai avec ça d'ailleurs, si tu veux. C'est-à-dire qu'on dit souvent que la morale de l'Église. Il y a un jésuite qui est mort il y a maintenant à peu près 5 ans qui s'appelait Jean-Yves Calvez. Et le père Calvez avait l'habitude de dire que la morale catholique était à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a la vitesse qui plaît aux jeunes. Et donc, il y a la vitesse écolo ou la vitesse. Quand même en gros sur l'économique et le social, parce qu'il y a des réflexions de fond qui parfois contestent très fortement les modèles en cours. Et puis il y a l'autre vitesse, qui est la vitesse de tout ce qui est morale familiale et sexuelle et bioéthique. Et là, cette vitesse ne plaît pas, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas une vitesse, c'est la marche arrière.
Oui,
donc voilà, et le problème pour l'image ou la com de l'Église, c'est que elle est parfois tout à fait en prise avec l'actualité, hein, et parfois tout à fait et elle se défend en disant l'Église n'a pas à être en prise, elle n'a pas la vocation d'être en prise sur l'actualité. L'Église dit ce qu'elle a à dire, point barre. Mais tout le drame de l'incompréhension entre l'Église et nos sociétés, c'est tient à ces deux vitesses de la morale.